Aujourd'hui, ce n'est pas le texte de ce jour qui dictera notre méditation, mais un texte que j'ai choisi, et que j'ai choisi en fonction de l'actualité, en pensant à nos élections municipales et à tous ces enjeux de pouvoir, de conflits entre différents partis qui veulent s'arracher le pouvoir dans certaines de nos villes, en particulier dans nos grandes villes. Je vais lire donc dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, au chapitre 26, un extrait du conflit entre deux chefs politiques, Saül et David. Cet extrait se trouve au chapitre 26, les versets 1 à 25. Les gens de Ziph viennent trouver Saül à Gibéa et lui disent « David se cache sur la colline de Hakila, en face de la plaine désertique. Tu ne sais donc pas cela ?» Alors Saül se met en route. Il descend dans le désert de Ziph pour chercher David. Les meilleurs soldats d'Israël l'accompagnent. Ils sont 3000. Saül installe son camp sur la colline de Hakila au bord de la route. David est dans le désert. Il apprend que Saül le poursuit au désert. Alors il envoie des gens pour se renseigner. Ainsi, il est sûr que Saül est arrivé. David se met en route. Il arrive là où Saül a installé son camp. Il aperçoit l'endroit où Saül dort avec Abner, fils de Ner, le chef de l'armée. Saül dort au milieu du camp et les soldats campent autour de lui. David appelle Ahimelech le Hittite et Abishai, fils de Seruaï et frère de Joab. Il leur demande « Qui veut descendre avec moi jusqu'au camp de Saül ?» Abishai répond « Moi, je descends avec toi. » Pendant la nuit, David et Abishai se rendent près des soldats. Saül est couché et il dort au milieu du camp. Sa lance est plantée dans la terre, près de sa tête. Abner et les soldats dorment autour de lui. Abishai dit à David « Cette nuit, Dieu met ton ennemi en ton pouvoir. » Laisse-moi le frapper d'un seul coup de lance. Je n'aurai pas besoin de le frapper deux fois. » David répond, « Non, ne le tue pas. Si quelqu'un fait mourir le roi que le Seigneur a consacré, il sera puni. Par le Seigneur vivant, je te le dis, c'est le Seigneur lui-même qui le fera mourir, ou bien il mourra de mort naturelle, ou bien il sera tué à la guerre. Mais que le Seigneur m'empêche de tuer le roi qu'il a consacré. Maintenant donc, prenons la lance qui est près de la tête du roi avec sa gourde d'eau et partons. » David prend la lance et la gourde qui sont près de la tête de Saül. Ils s'en vont. Personne n'est réveillé, personne n'a rien vu, personne n'a rien su. Ils dormaient tous. En effet, le Seigneur a fait tomber sur eux un sommeil profond. David passe de l'autre côté de la vallée. Il se tient sur la colline assez loin du camp de Saül. David crie en direction de l'armée pour appeler Abner, fils de Ner. Abner répond et demande « Qui se permet de déranger le roi en criant ainsi ? » David continue, « Tu es un homme, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de meilleur soldat que toi en Israël. Alors pourquoi est-ce que tu n'as pas mieux protégé le roi ton maître ? Quelqu'un est venu pour le tuer. Ce n'est pas bien ce que tu as fait là. Vous n'avez pas protégé correctement votre maître, le roi consacré par le Seigneur. Par le Seigneur vivant, vous méritez la mort. Regarde à la tête du roi où sont sa lance et sa gourde d'eau. » Saül reconnaît la voix de David et il demande « David, mon fils, est-ce toi qui parles ?» David répond « Oui, c'est moi, mon roi. » Et il ajoute « Tu me poursuis, mon roi. Pourquoi donc ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Quel mal est-ce que j'ai commis ? Mon roi, je t'en prie, écoute ce que j'ai à te dire. Si c'est le Seigneur qui t'a lancé contre moi, qu'il accepte une offrande. Mais si ce sont des hommes, que le Seigneur les maudisse. En effet, aujourd'hui, on me chasse. » On m'empêche d'habiter le pays que le Seigneur a donné à son peuple. C'est comme si on me disait « Va servir d'autre Dieu ». Mais moi, je ne veux pas mourir loin de la présence du Seigneur. Toi, le roi d'Israël, tu es parti à la guerre contre moi pour me rechercher, moi, une puce. Pourquoi donc ? Tu me poursuis comme quelqu'un qui chasse une perdrix dans les montagnes. Oui, pourquoi ? Saül répond « J'ai eu tort. Reviens, mon fils David. Je ne te ferai plus de mal puisque cette nuit tu as respecté ma vie. » Oui, j'ai agi comme un fou et je me suis complètement trompé. » David dit, « Mon roi, ta lance est ici. Envoie un de tes serviteurs la chercher. Le Seigneur rendra à chacun ce qu'il a fait de juste et de sincère. Aujourd'hui, le Seigneur t'a livré à mon pouvoir, mais je n'ai pas voulu te faire du mal parce que tu es le roi consacré par le Seigneur. Aujourd'hui, ta vie a été précieuse pour moi. De même, je souhaite que ma vie soit précieuse pour le Seigneur et qu'il me délivre de tout malheur. » Alors Saül dit à David, « Que le Seigneur te bénisse, mon fils David. Oui, tu feras de grandes choses et tu réussiras sûrement. » David continue son chemin et Saül rentre chez lui. Que voulez-vous trouver dans un tel texte pour exhorter, encourager une église? Une sombre histoire de conflit entre deux chefs de guerre issus de deux tribus d'un même peuple. Histoire dramatiquement banale s'il en est. Aujourd'hui encore, nombreux sont les endroits du monde où des chefs guerroient contre leurs rivaux pour garder ou acquérir le pouvoir. Et certaines de nos élections municipales ne sont pas sans ressemblance avec ces luttes fratricides. Même si les armes aujourd'hui ne sont plus que symboliques. Ceci dit, si elles ne tuent plus physiquement, on a vu que les nouvelles armes que sont les réseaux sociaux peuvent faire pas mal de dégâts. On pourrait bien sûr penser au cas dont les médias ont beaucoup parlé, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. On pourrait lire ce texte de la Bible pour en tirer une leçon de morale et mettre en exergue le geste profondément humain de David. Et il est vrai qu'il y aurait de quoi dire à ce sujet. Mais ce texte a une profondeur théologique qui va plus loin que la simple leçon de morale. Pour comprendre, je vous invite à reprendre l'histoire de Saül depuis le commencement. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez toujours la relire dans le premier livre de Samuel. Depuis qu'il a été choisi pour être roi, jusqu'à cette anecdote. L'histoire commence au chapitre 8 du livre de Samuel. Le peuple demande un roi qui fasse l'œuvre de Dieu, à Samuel qui est le prophète. L'initiative peut paraître louable, mais c'est toujours très ambigu de vouloir un leader qui fasse l'œuvre de Dieu, car cela peut vouloir dire qu'on le veut à la place de Dieu. Quand on investit trop d'attentes sur nos responsables politiques ou religieux, c'est ce qui se passe. Avec Saül, ils étaient servis car, en plus d'être un politique, Saül était un grand spirituel, un mystique. Il entrait en transe pour prophétiser, nous dit Samuel. Il a même offert le sacrifice à la place du prêtre. Prêtre, prophète, roi, les trois ministères de l'Ancien Testament semblent réunis en cet homme. Et pourtant, si vous relisez cette histoire, vous remarquerez que, contrairement à David, jamais Dieu ne lui parle. Saül porte sur lui toutes les attentes, tous les espoirs de son peuple en tant que chef politique et religieux. Il faut donc qu'il réussisse. Et en plus, il veut réussir. Il veut répondre aux attentes de son peuple. Et en retour, bien sûr, il veut être respecté et aimé par son peuple. Saül a besoin qu'on lui renvoie une bonne image de lui. Il a besoin qu'on le reconnaisse, qu'on l'aime. Saül voulait réussir pour Dieu, faire son œuvre. Mais voilà, justement, il en fait trop. Quand il prend la place du prêtre pour faire le sacrifice, c'est-à-dire quand il réunit sur lui les trois ministères, Dieu décide de l'arrêter et de le remplacer par David. Et il place David à côté de lui à ce moment-là pour qu'il n'ait plus toute la place et pour l'aiguillonner, pour qu'il ait une opposition. Et ça, pour l'homme de Dieu qu'il voulait être et qui réunit en lui tous les ministères, ce n'était pas acceptable. Alors, Saül a deux mauvaises réactions. Quand il se sent dépassé par David, il agresse celui-ci pour rétablir son image de super-homme de Dieu mis à mal. Et à d'autres moments, il se dit « Je ne suis pas à la hauteur des attentes de mon peuple » et il sombre dans la dépression et la culpabilité au point que David doit venir lui faire de la musique pour lui remonter le moral. Tout cela nous est raconté, bien sûr, dans ce même livre de Samuel. David, pour sa part, est l'opposé de Saül. Au départ, il fonctionne comme lui en accumulant les réussites et en voulant montrer par là que Dieu est avec lui. Mais quand il échoue, au lieu d'en rajouter, au lieu, comme l'a fait Saül, de prendre toute la place, y compris celle du prêtre, il reçoit une parole de la part de Notre et accepte que cette parole le remette en question. Il accepte d'être repris par le prophète Nathan. Ça aussi, ça nous est raconté dans ce livre de Samuel. Tout le chemin spirituel de David consiste à comprendre qu'il est accepté par son Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire inacceptable. À l'inverse de Saül, David n'a pas besoin d'être reconnu par les autres. Être reconnu par Dieu, avoir du prix aux yeux de Dieu, lui suffit. Dans notre texte, il dit « Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de Dieu. » Dans notre texte, lorsque les deux se rencontrent, ces deux types de personnalités apparaissent au grand jour. D'une part, Saül, qui veut toujours faire l'œuvre de Dieu en renforçant le pouvoir de celui que ce Dieu a choisi, c'est-à-dire lui-même, en se conformant donc à l'image qu'il se fait d'un roi. Et d'autre part, David, qui ne cache pas sa haine pour Saül, seulement, au lieu de vouloir faire l'œuvre de Dieu, en tout cas ce qu'il pense être l'œuvre de Dieu, il fait l'inverse, il demande à Dieu d'accomplir celle-ci. Deux attitudes opposées. L'une conduit à la guerre sainte, quand l'homme veut combattre pour son Dieu et à la place de Dieu. L'autre, à l'inverse, remet à Dieu la violence humaine et lui demande de faire justice. Dans un cas, la violence accable l'humain, obligé de la consommer jusqu'au bout. Et on connaît des exemples récents de ce type. Dans l'autre cas, l'homme en est libéré car, une fois avouée, formulée, elle est remise à Dieu. Et David dit dans notre texte, « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul de le frapper. » Refouler sa violence et sa haine ne sert à rien. Faire comme si on aime l'autre quand on ne l'aime pas ne peut que différer l'explosion de la violence dans le temps, et souvent elle est plus importante même. Mais la remettre à Dieu, comme le fait David, en libère. Il ne s'agit pas de confondre cette absence de violence avec l'amour du prochain, mais au moins, la vie peut continuer. À la fin de notre texte, Saül et David se séparent. Ils ne font pas cause commune, ils ne sont pas réconciliés, mais ils se séparent sans se battre. Et ce n'est pas rien. Si déjà on savait faire ça, le monde serait plus agréable. Ce conflit entre Saül et David est riche d'enseignements encore aujourd'hui. Bien sûr, ces histoires concernent ceux qui exercent le pouvoir dans et hors de l'Église, mais elles nous concernent tous, même si nous ne sommes pas intéressés par le pouvoir. N'oublions pas que si Saül s'est mis à dysfonctionner, c'est parce que le peuple faisait porter sur lui des attentes qui le dépassaient totalement. Si les leaders dans l'Église et ailleurs, dans la société, nos leaders politiques, sont invités à ne pas agir à la place de Dieu, mais à le laisser faire, s'ils sont invités à devenir de plus en plus comme David et de moins en moins comme Saül, le peuple, lui, pour sa part, est appelé à ne pas attendre de ses responsables ce qui doit venir de Dieu seul et à ne pas les considérer comme des surhommes devant répondre à toutes leurs attentes. Au niveau politique, dans nos démocraties, ce texte est une invitation à ne pas attendre de nos élus plus que ce qu'ils peuvent et doivent faire. Il nous revient de veiller à ce qu'ils fassent leur travail, mais aussi d'éviter qu'ils essaient de faire celui de Dieu. Et évidemment, lorsqu'on a chassé Dieu de nos horizons, on a tendance à reporter nos espérances sur nos responsables politiques, et c'est là que risquent de commencer les ennuis. Amen.